Léon est mort à Sainte-Hélène. Son fils Léon lui a crevé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une baleine en train de bouffer les fils de son caleçon. Le grognard que je fus n'a jamais pleuré l'empereur. Une fois mort, le petit caporal a pris possession de son dernier royaume, celui de nos mémoires.
Le 5 mai 1821, à 17h49, exilé sur Sainte-Hélène, au large de l'Angola, Napoléon Bonaparte rendit son dernier soupir. Il avait 51 ans, la légende pouvait se mettre en marche.
Il exista naguère un être fabuleux qui avait pourtant l'aspect d'un homme, qui naquit dans une île, rêva toute sa vie de conquérir une île, sortira dans une île, et qui, contre son gré, trépassa dans une île.
Deux siècles plus tard, en 2021, le bicentenaire de sa mort s'est mué en un champ de bataille. Pour quelle raison ? Deux visions s'affrontent. D'un côté, certains revendiquent l'héritage doré.
Austerlitz, le code civil, la virilité à cheval, la gloire de la France, le cœur qui bat.
De l'autre, les sujets qui fâchent la société contemporaine.
Le tyran, l'esclavagiste, le misogyne, le cœur qui s'insurge.
Alors que répondre à ces polémiques ? Que Napoléon n'est ni le bien, ni le mal. Bonaparte est un objet historique complexe qui nécessite d'être appréhendé à la bonne distance. Dès le jour de son décès, Napoléon Ier a donné naissance à un archétype de notre inconscient collectif. Alors une question se pose, quelles empreintes a-t-il laissées dans nos vies ? Napoléon, où es-tu ?
Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais.
Une série en 9 épisodes sur les traces de l'empereur.
Chapitre 1er, la mort de l'aigle ou la naissance du mythe.
Commençons par repréciser les faits.
Merde !
L'aventure napoléonienne s'est achevée à Waterloo, morne plaine comme une onde qui boue dans une urne trop pleine. L'empereur des Français fut battu par les vieilles monarchies européennes. Le siècle avait 15 ans et Napoléon Ier fut prisonnier de la couronne d'Angleterre. Bonaparte a donc fini sa vie en captivité, entouré d'une petite cour sur une île a priori hostile, Sainte-Hélène, où se rendent régulièrement les gardiens du culte.
Quel est son aspect au premier abord ?
Oh, terrifiant, de la mer, oui, absolument terrifiant. C'est une espèce de forteresse et on se demande comment le pauvre empereur a pu vivre là-dedans. Mais quand on s'approche, on voit que c'est assez joli et à l'intérieur, c'est ravissant, c'est verdoyant, c'est plein d'arbres, de fleurs, de maisons, c'est charmant.
Et alors, naturellement, vous êtes allé voir les souvenirs de Napoléon. Qu'est-ce qu'il en reste ?
Ah, mais il reste la maison de Longwood qui tombe en ruine.
Et le jardin ? Comment est le jardin ?
Ah, complètement restauré, exactement comme il était du temps de Napoléon, avec les caniveaux profonds où l'empereur se cachait de ses gardes.
Et vous disiez qu'il n'y avait évidemment plus aucun témoin de l'existence de Napoléon là-bas, à part ?
À part une tortue. Une tortue géante, énorme, gigantesque, et qui a 200 ans, qui s'appelle Jonathan. Mais il a de ses yeux vus, Napoléon.
De ses yeux
vus. Ah oui, de ses yeux vus.
En vérité, Jonathan la tortue n'est arrivé sur l'île qu'en 1882. Et donc, de ses yeux vus, la tortue n'a jamais aperçu l'aigle. Mort en 1821, Bonaparte fut d'abord inhumé à Sainte-Hélène, où il a fallu organiser ses obsèques.
Ah, c'est très étrange ces funérailles.
David Chantrane est historien.
C'est très étrange parce qu'il est mort le 5 mai 1821, entouré de quelques compagnons d'infortune, de domestiques, de quelques femmes aussi qui ont accompagné leur mari, comme par exemple la femme du grand maréchal Bertrand. Et ces funérailles, elles se déroulent en plusieurs temps. Dans un premier temps, il faut montrer le corps, comme c'est de tradition. Donc il faut aussi que les Britanniques, qui ont organisé cette protection, cette captivité, cette prison finalement à ciel ouvert, puissent vérifier que c'est bien son corps. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est les funérailles, c'est-à-dire qu'on montre le corps. Ensuite, le lendemain, c'est l'autopsie, parce qu'on doit vérifier les origines de cette mort. Est-ce que c'est une mort naturelle ou est-ce que c'est le fameux empoisonnement auquel tout le monde pense de l'arsenic ? En fait, non, c'est une mort
aujourd'hui,
naturelle.
Aujourd'hui, c'est réglé, oui, on
c'est
sait.
Réglé, c'est
réglé, c'est mort d'un cancer de l'estomac, a priori.
Exactement, qui s'est transformé, effectivement, c'est un ulcère qui s'est transformé en cancer. Et donc ensuite, les funérailles vont se dérouler le 9 mai, donc 4 jours plus tard, dans une petite vallée dite du Géranium, où il aimait se promener à Sainte-Hélène, parce qu'on lui a refusé que son corps ne rentre en France. Il faudra attendre 19 ans pour cela, en 1840. Et donc à ce moment-là, on l'inhume avec l'abbé Vignali, qui est un Corse aussi, qui procède aux différentes bénédictions, sous un saule pleureur, dans une vallée du Géranium, où il aimait tellement cette eau et ce caractère et ce cadre-là, que ce lieu va devenir un lieu de fétichisme, de culte, parce que c'est un lieu qui lui ressemble. C'est à la fois le romantisme et puis l'amoureux de la nature qu'il était, en bon Corse qu'il était depuis sa naissance.
Une tombe sans aucune inscription, me semble-t-il.
Voilà.
Blanche.
Blanche, sans aucune inscription. Parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre. Entre les Britanniques qui voulaient reconnaître le général Bonaparte, avec lequel d'ailleurs ils avaient signé le traité d'Amiens, la paix d'Amiens en 1802, et puis après ça va se terminer un peu difficilement l'année suivante, entre ce général Bonaparte qu'ils ont reconnu comme chef d'État du consulat, et de l'autre, les Français qui pour eux, c'est bien sûr l'empereur qui s'est couronné à Notre-Dame et qui a été sacré par le pape, on ne peut pas s'entendre, donc entre le général Bonaparte et l'empereur Napoléon, il n'y aura pas de choix de fait, donc la plaque restera vierge de toute mention.
Lui qui brillait comme un flambeau, du haut de sa colonne altière, à ses pieds il vit un tombeau, loin de cette île meurtrière, et tranquille, heureux désormais, il ne secourra plus sa chaîne.
Sainte-Hélène, une île si lointaine qu'il a fallu 2 mois en 1821 pour que l'annonce de la mort de Napoléon parvienne jusqu'en Europe. Napoléon est mort le 5 mai et la nouvelle n'est arrivée en France, tenez-vous bien, que le 6 juillet, une autre époque. Le pays vit alors sous le règne de Louis XVIII. Frère de Louis XVI, la monarchie a été restaurée. Et c'est l'inépuisable Talleyrand, ministre survivant de tous les régimes.
Ouf. Il est mort.
Qui fut le premier informé.
On va donc pouvoir enfin parler de lui.
C'est un événement considérable, n'est-ce pas ?
Non, madame, non, ce n'est plus un événement, c'est une nouvelle.
Pourtant, vous venez de faire ouf.
Oui, je fais ouf, parce que le monde entier fait ouf en ce moment.
Laissons Talleyrand entretenir son art oratoire et intéressons-nous au roi.
Dieu garde le roi !
25 ans après la prise de la Bastille, les Bourbons sont donc remontés sur le trône de France.
Dieu garde le roi !
Alors, quelle fut la réaction de Louis XVIII lorsqu'à son tour, il apprit la mort de son glorieux prédécesseur ?
On ne connaît pas la réaction intime de Louis XVIII qui n'était pas spécialement habitué à donner sa pensée.
Thierry Lenz est historien et directeur de la Fondation Napoléon.
Il apprend la mort de Napoléon au cours d'une soirée, on va dire, où il reçoit la cour, et où, au fond, on ne note rien de particulier sur son visage. Simplement, on peut se douter qu'il y a une espèce de satisfaction, puisque, ça y est, l'hypothèque Napoléon est levée. Alors, comme le roi se dit lui-même paternel, qu'il veut le pardon et l'oubli, il va monter une espèce de petit scénario qui est fondé sur un fait exact, mais qui n'a pas eu lieu comme ce sera raconté après. Il se trouve que à cette soirée, un des chambellans de service, c'est le général Rapp, qui a servi très près de Napoléon dans les armées napoléoniennes, et Rapp dira la version officielle, fait une espèce de petit malaise, et le roi lui prend la main, lui dit de se retirer, qu'il comprend la peine qu'il a.
Une sorte de mansuétude.
Voilà, une grande mansuétude. Il lui dit pas « j'ai autant de peine que vous », mais on n'en est pas très loin. Et ça, ça va être publié dans les journaux, on va en faire des gravures, le roi qui tient la main du général Rapp, etc. Et en fait, la situation réelle n'a pas été celle-là du tout. Mais finalement, la communication royale va transformer l'incident en cette scène émouvante du roi qui tient la main du général Rapp.
Alors justement, Thierry Lenz, à lire la presse de l'époque, il y avait une presse à l'époque, ce ne sont pas du tout les médias d'aujourd'hui, mais il y avait une presse qui existait. On est assez frappé parce qu'on a le sentiment qu'on ne sait pas trop comment réagir à la mort de Napoléon. C'est des papiers assez factuels, il y a très peu de détails, ça prend très peu de place dans les journaux. Pour quelles raisons ? On a peur d'annoncer la mort de l'empereur des Français ?
Alors, il y a d'abord une raison technique qui est que il n'y a pas à l'époque d'agence de presse. Il n'y a pas d'autres informations que celles qui sont données par le gouvernement britannique, hein, qui est le propriétaire de Sainte-Hélène. Et donc, les nouvelles arrivent de Londres, elles arrivent toujours un petit peu en retard. Elles ne sont pas elles-mêmes d'ailleurs d'une grande fiabilité, hein, quand on compare ce que le gouvernement britannique reçoit comme information et ce qui s'est vraiment passé à Sainte-Hélène, on est quand même assez loin du compte. Et donc, ces nouvelles passent en France et sont filtrées. La presse a été remise sous un régime de censure, donc on fait très très attention à ce qu'on écrit, parce qu'on ne veut pas être interdit, hein, évidemment. Alors, cette presse, il y a une presse qu'on va qualifier de gouvernementale, elle n'est pas directement entre les mains du gouvernement, mais enfin, elle est quand même assez surveillé, notamment le Moniteur universel. En lisant le Moniteur universel, on se rend compte un peu des consignes qui ont été données, c'est-à-dire soyez factuels, et puis surtout ne blessez pas les âmes bonapartistes, on va dire. Pas de provocation à l'égard de nos adversaires. Alors c'est une réserve qui n'est pas respectée par quelques journaux ultra, notamment un d'entre eux qui s'appelle La Foudre, et qui évidemment, lui, se moque de Napoléon, l'accuse d'être l'antéchrist, invente l'anecdote de Talleyrand disant « ça n'est pas une information, c'est une nouvelle » au moment où il apprend la mort de Napoléon, mais c'est très très circonscrit au milieu politique ultra.
Hormis quelques ultras, donc, le pouvoir royal et ses affidés ont affiché une grande prudence face à la mort de Napoléon. Il ne fallait surtout pas réveiller dans les provinces les pulsions bonapartistes. Alors justement, comment a réagi le peuple de France devant la mort de celui qui fut son fournisseur de gloire ?
En réalité, il va se passer, on va dire, deux types de choses. D'abord, il n'y a pas de grand moment de deuil collectif. Par exemple, je ne sais pas, quand nous, un grand chanteur meurt, ben voilà, tout le monde le sait en même temps, donc il y a quelque chose de collectif qui se passe, qui se cristallise. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que ça va être une addition de réactions individuelles. Alors, dans les élites, la réaction individuelle, elle est, certains sont un peu tristes, d'autres sont très contents, mais en fait, bon, ça ne les choque pas plus que ça. On a un petit peu oublié Napoléon. Dans les milieux populaires, ça va se traduire par quelques manifestations de tristesse. On commande des messes, on crée des petits insignes de deuil spécifiques pour l'occasion. On signale dans les rapports de police que dans les Ardennes, un marchand de gaufres fabrique des gaufres à l'effigie de Napoléon. Voilà. Mais à la grande surprise des autorités royales, au fond, on peut presque dire qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement populaire. Il y a une petite manifestation à la colonne Vendôme, mais quelques dizaines de vieux soldats qui se réunissent à la colonne et qui rentrent chez eux. Et donc, ce que craignait un peu le gouvernement royal n'a pas lieu. La mort de Napoléon, il passe presque inaperçu en France, ou en tout cas ne provoque pas de grandes émotions populaires.
Pour quelle raison, Thierry Lenz ?
Parce que Napoléon a été un peu oublié. Parce qu'on est en pleine légende noire de Napoléon, son règne s'achève en 1815 par une défaite militaire qui est une véritable catastrophe.
Waterloo.
Une occupation prévue de 5 ans du territoire national qui ne sera finalement que 3 ans, mais enfin c'est quand même une occupation qui a été assez dure. Il y a une indemnité de guerre qui a dû être payée, donc pour la payer il a fallu augmenter les impôts, il a fallu réduire les dépenses de l'État, donc beaucoup de mécontents. Et puis finalement on arrive au début des années, on va va dire 1819-1820, la situation s'est stabilisée, les affaires reprennent, on va dire la vie normale reprend, d'autant plus que le règne de Louis XVIII peut redevenir, on va dire pseudo-libéral ou pseudo-parlementaire, et que c'est un roi, au fond, assez bonhomme, qui a de fortes convictions, mais qui n'a pas le goût de gouverner, donc il ne s'occupe pas de tout, et dans l'ensemble, sont plutôt des royalistes libéraux qui sont aux manettes. Puis surtout, les gens, enfin, on est à une époque où les gens cherchent surtout à vivre, à gagner leur vie et à faire leurs choses, si vous voulez. Hein. La grande politique les intéresse peu.
Et puis, il y a aussi la famille Bonaparte, notamment la mère, Laetitia, qui est toujours en vie lorsque son fils, Napoléon Bonaparte, meurt en 1821. Au départ, elle refuse de croire à la mort de son fils. Et puis, tout doucement, Thierry Lenz, ceux qui étaient avec Napoléon à Sainte-Hélène reviennent en France. Ouais, donc, elle doit se faire à l'idée. En effet, on lui annonce qu'en effet, Napoléon est mort. Elle implore très vite le retour du corps de son fils. Ouais, elle implore, Laetitia.
Oui. Alors, quand on annonce à Laetitia Bonaparte la mort de son fils, elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas parce qu'elle est convaincue que son fils a été enlevé par des anges sur ordre de la Vierge et donc qu'il n'est pas à Sainte-Hélène, il est ailleurs. Alors on ne sait pas où il est, hein, dans son esprit, mais enfin voilà. Et elle y croit dur comme fer. Lorsqu'elle est convaincue que son fils est bien mort, elle a vraiment une grande crise, comme les mères l'ont lorsqu'on annonce la mort de leur enfant. Et puis, c'est vrai qu'elle va rapidement écrire au gouvernement britannique pour obtenir le rapatriement du corps de Napoléon.
Les anges n'ont pas entendu les prières de Laetitia et la mère de Napoléon n'a donc jamais obtenu le retour du corps de son fils en terre de France. Bonaparte est resté 19 ans enterré sur son rocher. C'est Louis-Philippe, dernier roi des Français, sous la monarchie de Juillet, qui a souhaité en 1840, dans un esprit de réconciliation nationale, rapatrier la dépouille de Bonaparte à Paris. Alors, faisons un bref voyage dans le temps.
Vous voici à la Chambre des députés le 12 mai 1840.
Messieurs, le roi a ordonné à son Altesse royale, Monseigneur le Prince de Joinville, de se rendre avec sa frégate à l'île de Sainte-Hélène pour y recueillir les restes mortels de l'empereur Napoléon.
Une fois débarqué sur Sainte-Hélène, le prince de Joinville, troisième fils du roi Louis-Philippe, assista à l'exhumation du corps de Napoléon. Et là, quelle ne fut pas la surprise de la délégation française.
Lorsqu'on ouvre ce tombeau avec les cercueils successifs, eh bien, on se retrouve exactement dans la même condition que quand on avait ouvert le tombeau d'Henri IV au moment de la Révolution à la basilique Saint-Denis. Comme c'est hermétique, c'est un peu comme les pharaons. On ne l'a pas embaumé véritablement, mais on a fait en sorte qu'il soit préservé le mieux possible, parce que c'est la tradition qu'on souhaite pour les souverains. Vous vous souvenez de la fameuse théorie des deux souverains, le serviteur et le souverain corporel, et puis celui qui représente le pouvoir.
Les deux corps du roi.
Les deux corps du roi, c'est exactement ça, de Cantorovite. Eh bien là, ici, ils sont réunis. Et lorsqu'on ouvre le cercueil mortel, finalement, le 15 octobre 1840, jour pour jour, 25 ans après l'arrivée de Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène,
Bonaparte's face was miraculously well preserved.
C'est une stupeur, à la fois pour ceux qui étaient là, présents, pendant les journées
le
de Sainte-Hélène.
Le visage mortuaire n'a pas bougé.
Le visage mortuaire n'a pas bougé. Les ongles ont continué de pousser, excusez-moi, mais je donne un peu des détails macabres, mais les cheveux ont continué de pousser. La barbe aussi. Et donc tout le monde le reconnaît. On s'empresse, bien sûr, de refermer le cercueil. Et donc, on rapporte ce corps, on le ramène sur la belle poule avec le fils du roi, vous parliez tout à l'heure de Louis-Philippe. Et la volonté de Louis-Philippe, en fait, dans cette idée, pour le ramener ensuite aux Invalides, où un cercueil de quartzite rouge sera élevé pendant 20 ans jusqu'au Second Empire, pour que ce tombeau soit élevé. Bien, l'idée de Louis-Philippe, c'est effectivement ce qu'on appelle, comme la place d'ailleurs du même nom, une place de la Concorde. C'est l'idée de Concorde. C'est-à-dire qu'entre la Révolution et puis les traditions d'Ancien Régime, eh bien Napoléon, finalement, il résume tout cela. Et quand on le fait revenir, c'est bien sûr pour se mettre un peu les bonapartistes dans la poche, mais aussi pour dire la Révolution est vraiment terminée cette fois-ci. La parenthèse permet maintenant d'aller dans l'avenir avec de meilleures conditions.
L'arrivée de Sainte-Hélène doit être entourée de manifestations grandioses.
Les chambres souscriront certainement à votre vœu.
À Paris, le roi Louis-Philippe se préparait au retour de Napoléon.
J'ai décidé que les formalités suivent.
Laissons maintenant la parole à Victor Hugo. J'ai entendu battre le rappel dans les rues depuis 6h30 du matin. Je sors à 11h. On sent que Paris tout entier s'est versé d'un seul côté de la ville comme un liquide dans un vase qui penche. Il fait très froid, un beau soleil, de légères brumes au ciel. Le mouvement fébrile de la fête commence à se faire sentir. Oui, c'est une fête. La fête d'un cercueil exilé qui revient en triomphe.
David Chantran, le cortège mortuaire arrive à Paris le 15 décembre 1840. Je crois que c'est un immense succès populaire. Il y a 1 500 000 Parisiens, je crois.
C'est ça,
à quoi ça ressemble? C'est festif, c'est sinistre, c'est digne? Ça ressemble à quoi?
C'est très digne, c'est très respectueux. Dans l'esprit, il faut s'imaginer qu'il y a beaucoup de gens qui ont connu cette période. Victor Hugo, par exemple. Il est né, vous vous souvenez, je naquis quand, voilà,
1802.
En 1802. Ce siècle avait 2 ans. Il voit passer ce cercueil. Il a été jeune enfant auprès de son père qui était lui-même général. Donc Victor Hugo, quand il voit ça, c'est finalement à sa fois sa jeunesse, cette gloire passée, ce mythe aussi de cet homme qui a tout perdu. Finalement, c'est l'histoire de France qui réapparaît.
Tout à coup, le char de l'empereur apparaît. Le soleil voilé un moment reparaît en même temps. L'effet est prodigieux. On voit au loin, à travers de grandes statues blanches qui ressemblent à des fantômes, se mouvoir lentement une espèce de montagne d'or.
Et cet enfant qui était Bonaparte, qui avait été élevé dans les écoles royales militaires, qui avait été de la Révolution, jacobin, qui s'était fait ensuite victorieux sur les champs de bataille en Italie, en Égypte, qui avait pris le pouvoir dans des conditions un peu rocambolesques, qui était devenu consul puis empereur, et qui ensuite avait tout perdu contre les monarchies. Et finalement, cette histoire générale, elle revient là, le 15 décembre 1840 à Paris. Imaginez ce long voyage. Et donc, il y a beaucoup de respect, beaucoup de profondeur. Et surtout, je vous disais, beaucoup de gens aussi, non seulement Victor Hugo, mais tous ces anciens grognards qui avaient connu les grands champs de bataille, eh bien, ils sont là pour l'accueillir. C'est une sorte de concorde nationale, c'est-à-dire que tout le monde se dit, enfin, maintenant, on peut être apaisé et on peut voir cette histoire autrement qu'avec tous les soubresauts qu'on a connus.
La dépouille mortelle de l'empereur pénètre sous les voûtes. Vous y êtes. Vous êtes là, recueillis devant cette façade de Bruant que personne ne connaît très bien, mais tout de même, les Invalides sont de Bruant et la coupole est de Mansart, on le sait. Vous êtes là donc tout à fait préparé à assister à un moment historique et vous le vivez réellement car vous allez être là. Et soudain, un bruit de pas. Voilà que les restes du grand homme sont sous la voûte.
Avec ce retour des cendres en grande pompe, Louis-Philippe espérait en effet clore le chapitre napoléonien. Et d'ailleurs, dans l'esprit de Concorde, on ne disait plus « le roi de France », mais bien « le roi des Français ». Le peuple avait gagné en souveraineté. Bonaparte était digéré et la monarchie avait à nouveau de beaux jours devant elle. Ainsi soit-il. Mais ce que le roi Louis-Philippe n'avait pas anticipé, c'est l'œuvre du temps. Depuis la mort de Napoléon, sa légende s'est amplifiée dans les chaumières et les mémoires, aidée entre autres par le travail d'Emmanuel de Lascazes, conseiller d'État, qui fut le confident de l'empereur à Sainte-Hélène.
Le règne de ma dynastie va dans l'intérêt du peuple. C'est le peuple qui m'a couronné.
Celui à qui Napoléon a dicté pendant des mois ce qui est devenu dès 1823 le mémorial, sorte d'évangile profane.
Entrez. Le peuple qui m'a couronné.
C'est un livre qui a changé l'histoire du monde. Parce qu'en fait, le Napoléon qui sort de là n'est pas le vrai Napoléon. C'est le Napoléon véritablement de la légende. C'est un Napoléon libéral, alors que Napoléon est totalement étranger au libéralisme politique. C'est absolument pas sa doctrine. C'est vrai que c'est un homme de l'égalité, c'est un homme de la propriété, c'est un homme de la non-confessionnalité de l'État, on dirait la laïcité aujourd'hui.
De l'autorité.
C'est un homme de l'autorité, et ce n'est pas un homme du libéralisme politique. Or, le mémorial, si on le lit avec attention, on s'aperçoit quand même que lorsque Napoléon parle, il dit plutôt la vérité sur lui-même. Hein. Mais c'est Lascazes, c'est le commentaire de Lascazes ensuite qui est magnifiquement bien écrit, qui fait de lui un libéral.
Mais Thierry Lenz, est-ce que pour reprendre les propos de Jean Tullard dans sa biographie incontournable de Napoléon, est-ce que c'est pas aussi un effet d'aubaine entre guillemets, cette dernière bataille menée, n'est-ce pas le moment pour Napoléon, quitte à tordre un peu la réalité, de changer d'image. Est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier le César autoritaire pour faire naître ce Napoléon libéral? Et ce n'est pas que Lascazes qui y pense. Peut-être que Napoléon lui-même a ce côté génial de s'inscrire dans la postérité.
Oui, alors des travaux récents, notamment menés par l'historien Pierre Branda, montrent qu'en réalité, l'idée qu'on a que Napoléon, dès qu'il pose le pied à Sainte-Hélène, veut dicter l'histoire au siècle futur, est une idée fausse. En fait, Napoléon croit très longtemps, probablement jusqu'à la fin de l'année 1818, que finalement, tout bien réfléchi, les Anglais vont le laisser aller s'installer en Amérique, et éventuellement même dans la campagne anglaise, que peut-être il a même un avenir politique autour du golfe du Mexique, etc. Il est reparti. Et c'est après 1818, donc après le départ de Lascazes. C'est-à-dire que Lascazes reçoit ses confidences dans un moment où on a encore des projets. Après le congrès d'Aix-la-Chapelle, en septembre 1818, le congrès décide que Napoléon restera à Sainte-Hélène, sous-entendu qu'il mourra à Sainte-Hélène. Et là, il y a une crise morale de la part de Napoléon qui dure plusieurs mois, et donc on est très très partagé sur le vrai but qu'avait Napoléon au moment où il parlait avec Lascazes. Et c'était peut-être aussi une façon de dire, regardez, un homme comme moi, moins de 50 ans, je peux encore servir, quoi, hein, en quelque sorte.
Napoléon avait d'ailleurs su comprendre lui-même la place que l'histoire lui assignait. Quand il écrivait, quel que soit le gouvernement de la France, il m'élèvera un jour une statue, parce que j'ai été l'homme de la nation. J'ajouterai qu'il fut davantage. Il fut, suivant la terme de Chateaubriand, le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine.
Si ce puissant souffle de vie s'est éteint au milieu de l'Atlantique, le mémorial de Sainte-Hélène, lui, a irrigué la légende napoléonienne. Ce fut un immense succès de librairie au XIXe siècle, un livre qui diffusa en Europe une nouvelle image de Napoléon.
L'image qui se diffuse, c'est un peu ce qu'il avait tant espéré pendant toute sa carrière et même pendant tout son règne, c'est-à-dire de faire quelque chose qui ne soit pas uniquement des allégories un peu mielleuses, qui n'avaient pas d'intérêt. C'était de donner le sens à la grande tradition, à la fois de la tragédie et des grands textes. Et pour cela, il s'est opposé à Chateaubriand. Mmh. En fait, quand ces années vont passer, eh bien même des Chateaubriands, des Stendhal, des Hugo, même à l'étranger, Pouchkine, ensuite on verra apparaître Tolstoï avec Guerre et Paix, eh bien toutes ces personnes-là, Lord Byron, d'autres, se disent mais finalement, c'était notre jeunesse, et cette jeunesse, elle est passée dans des moments de fureur, mais qu'est-ce que c'était bien d'une certaine manière? Parce qu'il y avait le débat des idées, on pensait que tout était possible, imaginez même le symbole même de Bonaparte, il part d'une petite île de Corse, où il est assez modeste, selon nos critères actuels.
Critères actuels, hein. Parce que c'est pas si modeste
non,
à l'époque. Hein,
non, d'accord. Mais critères actuels. Mais dans des conditions où il sait que le maximum de ce qu'il peut atteindre, c'est de devenir colonel dans l'armée, c'est tout. Et devient empereur de tous les Français, et surtout qui va dominer l'Europe. C'est inimaginable à l'époque. On est roi de père en fils. Et donc, toute cette production montre bien qu'il y a un engouement, une volonté même derrière cela, de rêver et d'idéaliser un peu. Toute cette volonté d'un petit peu arranger l'histoire et de faire un peu de... Ah, j'allais dire de propagande, c'est pas le mot, c'est de communication politique. Et bien finalement, ce sont les romantiques, avec leurs pièces de théâtre, leurs textes, leur enthousiasme même, qui vont s'en emparer, et les chansonniers, Béranger par exemple, vont faire cela. En fait, Napoléon n'a jamais été aussi présent, on le voit avec les bandes dessinées, avec le cinéma, il est toujours là, finalement, sous différentes formes.
Vers, prose, théâtre, roman, l'homme du siècle envahit tout, domine tout.
Ceux qui ont pris part à son aventure forment des écrits.
Le Napoléon du peuple vivait dans la grange où Balzac a fait compter toute la légende de l'empereur par un fier soldat.
Légende à laquelle collabore Béranger avec les souvenirs du peuple.
Des Espagnols m'ont pris sur leur navire, au bord lointain tristement géré, un bleu débris d'un héroïque empire, j'avais dans l'un l'exil et mes regrets. Mais loin du cap après 5 ans d'absence, sous le soleil je vogue plus joyeux, pauvre soldat je reverrai la France, la main d'un fils me fermera les yeux, pauvre soldat je reverrai la France, la main d'un fils me fermera les yeux. Dieu le pilote a crié Sainte-Hélène, et voilà donc où languit le héros. Mon grands espagnols, là c'est un votre haine. Nous maudissons ses fers et ses bourreaux. Je ne puis rien pour sa délivrance. Le temps n'est plus d'être pas glorieux. Pauvre soldat, je reverrai la France. La main d'un fils me fermera les yeux. Pauvre soldat, je reverrai la France. La main d'un fils me fermera les yeux.
Connaissez-vous Pierre-Jean Béranger, chansonnier immensément célèbre au XIXe siècle? Ce bonapartiste convaincu jusqu'au bout des ongles a écrit cette chanson en 1829, reprise par Jean-Louis Murat, pour faire entendre la voix d'un ancien soldat de la Grande Armée, contraint de fuir aux Amériques après la restauration de la monarchie. Ce grognard, sous la plume de Béranger, regrette son empereur, comme bon nombre de vétérans qui ont survécu à la mort de Bonaparte. Car l'image que nous avons de Napoléon passe aussi par le récit, le soir au coin du feu, de ces anciens soldats dans les familles de la paysannerie française. Les grognards racontaient à leur sauce l'épopée des champs de bataille. En 1850, il restait à peu près 35 000 vétérans. Et on sous-estime encore aujourd'hui combien ces grognards ont eux aussi participé à alimenter le mythe napoléonien.
Et dans un des textes de Béranger, ça s'achève par ces mots.
Grand-mère,
parlez-nous de lui. Tout est dit. Parlez-nous de lui, ça ne veut pas dire qu'on oublie les horreurs qui se sont passées sur les champs de bataille. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les erreurs qu'il a pu faire dans le passé. Ça veut dire que ça fait partie de notre histoire. On l'assume. Il l'avait dit d'ailleurs lui-même quand il était arrivé au pouvoir. Il avait dit du baptême de Clovis. Au comité de salut public, j'assume tout. Eh bien, il est le trait d'union avec cette histoire qui va suivre. Et donc, les grognards, eh bien, sont porteurs de cette histoire. Et au coin du feu, vous avez raison, ces vieilles moustaches, comme on les appelle, ces grognards, hein, ce mot de grognard, ça vient de grenadier, mais aussi de ces hommes qui grognaient, mais qui suivaient toujours. Eh bien, cette fidélité, elle se perpétue dans les générations qui vont suivre, qui vont un peu idéaliser, mais qui vont surtout montrer que, eh bien, ils l'assument cette histoire. Ils l'assument véritablement, parce que la France, c'est cette particularité, c'est la première démocratie européenne, c'est une république moderne, à la suite des États-Unis d'Amérique. Et cette république moderne, eh bien, elle s'est construite avec des difficultés, avec la terreur, mais que finalement, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé en Vendée, ni oublier non plus Valmy.
Dans les années 1820-1830, David Chantran, donc Napoléon est mort en 1821, il y a évidemment toute une partie de la population française qui va trouver, comment dire, des relais pour porter le deuil de Napoléon. On porte un foulard avec des abeilles, par exemple, on achète un buste de Napoléon Bonaparte pour mettre chez soi. Il y a aussi, comment dire, dans sa poche, on peut avoir un petit canif, hein, très important, le petit canif napoléonien. Je vous dis ça parce qu'il y a toute une panoplie de l'intime qui rentre dans la poche. Napoléon n'est pas que dans l'écrivain romantique, il est aussi dans le quotidien des Français, jusqu'à avoir ce petit canif dans la poche.
Oui, et c'est exactement la différence qu'il y a entre ce Napoléon qui a emporté effectivement tout sur son passage, mais qui a fait aussi, je vous disais, certaines erreurs, mais c'est parce qu'il résume aussi ce parcours et qu'il est proche justement de cette France de l'époque. Il y a un élément qui résume ce que vous disiez. Si sous ces hommes qui sont devenus maintenant, par exemple pour les soldats, qui sont devenus demi-soldes, c'est-à-dire qui touchent seulement la moitié de la solde, parce qu'on n'a pas besoin de les utiliser maintenant que la paix est faite avec le reste de l'Europe, maintenant que le Congrès de Vienne a réglé tous ces problèmes. Donc, ils ont avec eux, effectivement, des petits canifs, ils ont des cannes avec des pommeaux qui remontrent encore l'ombre de Napoléon, mais c'est l'homme du peuple. Alors, il a tous les défauts, il a toutes les qualités, mais la différence avec le reste, avec Louis XVIII par exemple, ou avec les rois d'avant, eh bien, lorsqu'il revient au moment des 100 jours, il croise une paysanne, Napoléon, qu'il ne reconnaît pas, parce qu'il n'y a pas de télévision à l'époque, il n'y a pas d'image comme on les connaît aujourd'hui, et lui demande « Mais on parle que Napoléon voudrait rentrer. Toi, la vieille, qu'est-ce que ça te fait par rapport au roi Louis XVIII ?»« Oh, je l'aime bien, notre roi, mais quand même, l'autre, il était de chez nous, il était du peuple.
Il nous ressemble.
Il nous ressemble. Et c'est ça qui fait la différence avec le reste.
David, est-ce que ce n'est pas le plus grand hold-up de l'histoire de l'humanité? Parce que c'est pas l'homme du peuple, Napoléon Bonaparte, c'est pas l'empereur du peuple, c'est l'empereur des nantis. Les thermidoriens, comme on les a appelés, c'est-à-dire ceux qui ont pris le pouvoir sous le directoire après la Révolution française, qui étaient des bourgeois en vérité, une révolution bourgeoise, ils ont voulu Napoléon pour conserver la propriété, pour conserver les acquis de la Révolution française. Mais Napoléon ne veut pas être l'empereur de la canaille, il le dit en 1815, quand on le pousse à ne pas abdiquer. Il dit « je ne veux pas être l'empereur de la canaille ». Donc à la fois, il est l'homme du peuple, évidemment, dans la représentation populaire, mais en vérité, Napoléon, il s'en fichait un peu du peuple.
C'est un fait que c'est l'empereur du paradoxe. Mm-hmm. Et c'est ça qui résume aussi cette période-là, parce que, et le personnage lui-même, parce qu'en réalité, vous avez tout à fait raison, il est originaire d'une famille de petits hobereaux corses, on va dire, qui fait les écoles royales militaires, donc il est quand même de l'élite, d'une certaine manière, mais il bénéficie d'une bourse. Il va se retrouver dans les armées royales, mais son rêve, c'est de revenir en Corse. Donc c'est tous ces paradoxes-là réunis qui montrent que c'est aussi un destin en marche. J'aime pas ce mot, mais bon, maintenant par rapport à d'autres éléments. Mais, et qu'il va se retrouver dans un mouvement qui l'emporte. Et ce mouvement qui l'emporte, finalement, il résume aussi le choix qu'ont dû faire certains hommes qui, ou certaines femmes ou certains enfants qui ont dû quitter leur pays parce qu'ils étaient émigrés, parce qu'ils étaient nobles. D'autres qui ont fait des choix en se disant ben, « maintenant, je vais mourir pour défendre le territoire ». D'autres qui avaient des idéaux.
Ou de monter de province à Paris.
Ou de monter de province à Paris. Et finalement, Napoléon, ben, il va régler certains problèmes parce que justement, il est plein de ces paradoxes, qu'il n'a pas d'idées préconçues, que ce n'est pas un idéologue. Et qu'en voyant les choses en face, il se dit « je suis Corse ». Ben, je n'ai pas ce poids sur mes épaules, donc je vais les régler ces problèmes, comme peut-être personne ne peut le faire.
Albert Dudonné, quel souvenir gardez-vous du tournage avec Gans ?
Je regarde un souvenir éblouissant. Pendant 2 ans que le film a tourné, je ne dis pas que je me suis cru Napoléon, non, bien sûr.
Se prendre pour Napoléon, c'est aussi une des conséquences étonnantes de la légende.
Mais je m'y suis cru tout de même.
Commençons par évoquer les cas logiques, les acteurs de théâtre ou de cinéma qui ont incarné l'empereur depuis 2 siècles.
Quand j'interprétais une scène, je revivais intensément par la pensée les moments historiques que Napoléon avait lui-même vécu. Je me crée une réalité en invoquant des ombres.
Dès le 19e siècle, David Chantran apparaissent, et c'est là où on prend mesure de la puissance symbolique de Napoléon Bonaparte, apparaissent d'une part des sosies dans les campagnes de France, mais aussi des gens qui se prennent pour Napoléon. Hein, ce fou qui se prend pour Napoléon, on croit que c'est assez récent, en fait, pas du tout. Dès la mort de Napoléon, des gens se prennent pour lui, ce qui donne la force du symbole. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de délire assez rapide autour de Napoléon au 19e siècle? Est-ce qu'il y a un délire napoléonien?
Il y a un délire parce que comme souvent dans les grands personnages de l'histoire ou les grandes stars, parce que c'est une star un peu à sa façon, eh bien, il y a la peur effectivement de se retrouver dans le vide. Et puis surtout parce qu'il y a une telle identification à se passer, à cette nostalgie qui s'empare des gens, que effectivement, on va se retrouver avec un personnage qui a aussi tout inventé d'un point de vue de l'image et de la communication. C'est une marque en lui-même. Et puis surtout, c'est une silhouette. Si vous promenez dans la rue avec, nos auditeurs peuvent le faire, avec un bicorne, la main dans le gilet et une redingote, tout le monde dira, il se prend pour Napoléon. Eh bien, cette silhouette-là, il l'avait voulu, parce qu'il avait bien entendu réfléchi à tout cela, mais ça va le dépasser parce que des gens vont se prendre pour Napoléon, vont s'identifier à lui, parce qu'il y a un vide à combler, il manque une figure. C'était le roi auparavant, très longtemps. C'était la puissance de l'Église. Et maintenant qu'on est dans un ordre laïque, eh bien, il faut se faire des idoles. Et ces idoles, elles passent par à la fois la politique, c'est le cas de Napoléon et d'un destin hors du commun, et puis par la suite par des stars de différents domaines. C'est un petit peu ce que Napoléon a pu entraîner avec sa présence.
Et sa mort, la mort le transfigure.
Hein. Mais bien sûr.
La mort en fait un archétype.
Exactement. Et il le dira à Sainte-Hélène, il dira à Bertrand, qui était son grand maréchal du palais, il lui confiera « le martyr que j'ai connu à Sainte-Hélène, me dépouille de la peau du tyran. »
Les habits du tyran ont donc disparu derrière les fastes de la légende. Mais pour bien comprendre cette image de Napoléon, qui est arrivée jusqu'à nous 2 siècles après sa disparition, il faut revenir au martyr de Sainte-Hélène.
Sainte-Hélène fut un merveilleux laboratoire de légende.
Mort, Napoléon s'anime d'une vie nouvelle.
Cette mort fut son Golgotha. Le Golgotha, c'est là où Jésus fut crucifié. Et si Napoléon avait fini sa vie comme propriétaire d'une exploitation de coton en Louisiane, à boire du thé en fin d'après-midi, comme ça a failli être le cas, eh bien, rien n'aurait été pareil.
Ah !
Sans la souffrance romantique de Sainte-Hélène,
la mort.
Point de mythologie napoléonienne.
Bien sûr. Si Napoléon avait été tué à la bataille de Waterloo, on parlerait de lui comme, on va dire, probablement d'un grand dirigeant civil, mais d'un conquérant qui est allé peut-être un peu trop loin. Enfin, grosso modo, hein, c'est ce qu'on dirait de lui. Là, il y a en plus ce côté christique que vous soulignez. Mm-hmm. Hein. Et d'ailleurs, la comparaison est faite immédiatement. C'est-à-dire que le Golgotha, c'est Sainte-Hélène, Ponce Pilate, c'est Tsenlo, la Passion, c'est les souffrances de Napoléon avant sa mort, et il y a même la résurrection. Exemple, le tableau d'Horace Vernet, Napoléon qui sort de sa tombe en lumière. Hein. Et on a comme ça des quantités de représentations d'un Napoléon ressuscitant.
Montolan, mon ami, je suis mort.
Il fallait passer par cette marche aux abîmes, ce long calvaire, pour finalement faire passer Napoléon, qui était quand même, avec un bilan qui était un peu triste en 1814-1815, mais pour montrer finalement ce qu'il fallait en retenir, et que ce martyr qu'il connaît à Sainte-Hélène va le laver un peu de tout ce qu'il a pu connaître, et va l'élever à un rang différent. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une légende napoléonienne qui s'en inspire finalement, et qui va donner naissance à ce moment-là au mouvement que vous avez évoqué, mais au-delà de ça, c'est quasiment un mythe napoléonien. Et ce mythe napoléonien, c'est pas qu'il faille le juger en bien ou en mal, c'est une réalité à ce moment-là, et c'est pour cette raison que vous parliez tout à l'heure des bustes, des gens qui s'entouraient de personnages ou de tableaux et tout. L'un des objets les plus diffusés dans les maisons, c'est un peu morbide, je suis désolé, mais c'est le masque funéraire de Napoléon. C'est étonnant. On va pas montrer ça aux enfants, mais si.
Et puis dans la série, les Français vénèrent leurs grands hommes à la vente à Drouot du masque mortuaire de Napoléon, réalisé en plâtre par ses compagnons d'exil. Il a été adjugé 450 000 francs. Le voici. Et autre objet de culte, un pot de chambre en vermeil de l'empereur qui a été adjugé, lui, à 580 000 francs. Le voici.
Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, aux États-Unis, en Russie, au Japon et même en Corée du Sud, c'est l'image du self-made man, même si c'est un peu galvaudé, c'est l'image du self-made man. Et c'est donc pour cette raison qu'un Sud-Coréen a acheté un bicorne de Napoléon plus de 2 millions d'euros. C'est un grand industriel du poulet. Ben, s'il a acheté le bicorne de Napoléon, pour lui, ça signifie quelque chose. Encore aujourd'hui, c'est un symbole pour non seulement la réussite, mais pour dire attention, quand on est très haut, il faut se méfier, il faut toujours s'entourer, parce que lui, cet homme-là qui avait tout entre les mains, il a tout perdu. Donc, méfions-nous aussi de notre ambition qui peut être parfois trop dévorante.
Deux siècles après sa mort, Napoléon Bonaparte semble encore être partout. Mais quelle place doit-on lui accorder ? En 2021, c'est une question qui inquiète certains historiens.
Ce que je crains, c'est que Napoléon devienne une chose banale dans l'histoire de France. C'est-à-dire, les gens ne se rendent pas compte, enfin, de l'importance, y compris au quotidien, qu'a Napoléon. Et qu'au fond, il est intimement lié, je vais dire un gros mot, à notre identité, à l'unité de la nation, et à ce qu'est la France, ou ce qu'elle a été, ou ce qu'elle risque de ne plus être, enfin je ne sais pas comment l'exprimer, et que par conséquent, c'est au-delà de Napoléon, c'est autre chose qui est en jeu. Il est la France dans sa structure politique et sociale. Vous disiez tout à l'heure une intimité, etc. Moi, je dis, il est en nous. Nous faisons tous les jours du Napoléon sans le savoir. Le Code civil s'applique depuis... voilà. Et même au-delà de notre mort, puisque le droit des successions date de Napoléon. Vous vous promenez dans Paris, dans Bordeaux, dans Lyon, dans Marseille, c'est le style néoclassique, empire. Vous balayez devant votre porte, enfin, plus personne ne le fait de nos jours, mais normalement, on est obligé de balayer devant sa porte. C'est un texte qui date de l'époque napoléonienne. On enterre ses morts à 6 pieds sous terre, 6 feet under. C'est une décision napoléonienne, etc. Donc, si vous voulez, oui, il est quelque chose de nous.
Inter-actualité.
Monsieur, je vous demande pardon, que faites-vous aujourd'hui ? À 19h05, sur la place de la Concorde, au pied de l'obélisque.
Monsieur, que pourrais-je y faire ? Je suis infidèle, moi. Tous les ans, je suis là.
Vous êtes venu pour le coucher du soleil, Car aujourd'hui, le soleil se couche dans l'axe de l'Arc de Triomphe, c'est bien cela?
Oui, monsieur, c'est exactement ça. Parce que, monsieur, ce rayon de soleil sous la voûte de l'Arc de Triomphe, c'est toute la gloire de notre empereur. C'est toutes ses victoires, monsieur.
En contrepoint aux nostalgiques, laissons le mot de la fin à Chateaubriand, mémoire d'outre-tombe.
On se demande par quel prestige Bonaparte, si aristocrate, si ennemi du peuple, a pu arriver à la popularité dont il jouit. Voici le mot de l'énigme. Roi prolétaire, il humilia les rois et les nobles. Il nivela les rangs. La vanité française se bouffit aussi de la supériorité que Bonaparte nous donna sur le reste de l'Europe. Après sa mort, à Sainte-Hélène, on commença à s'attendrir. On oublia sa tyrannie. Sa gloire a profité de son malheur. Vivant, il a manqué le monde. Mort, il le possède. Après avoir subi le despotisme de sa personne, il nous faut subir le despotisme de sa mémoire. Il restera pour moi cette créature fantastique composée de mensonges. Il n'a pas fait la France. La France l'a fait.
Chateaubriand ne serait-il pas le plus affûté des témoins de son siècle? En conclusion de ce premier épisode, affirmons qu'il faut bien sûr commémorer ce bicentenaire et en profiter pour essayer d'expliquer à la société du XXIe siècle que Napoléon Bonaparte fut l'homme de son temps et que sa gloire fut immense, plus grande encore que celle de Washington aux États-Unis. Néanmoins, la France de 2021 n'est plus celle de 1821. La société française a profondément changé et rien ne nous interdit aujourd'hui, bien au contraire, de questionner l'héritage napoléonien sans oukase, uniquement à l'aide du travail des historiens. Ne jamais juger le passé à l'aune du présent, c'est l'ambition de cette série consacrée à Napoléon.
Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais.
Une série réalisée par Violaine Ballet. Assistance éditoriale Estelle Gap, documentation sonore Thierry Dupin, Romain Couturier, Hervé Evano, avec la participation de Nicolas Lormeau de la Comédie-Française. Prochain épisode, le clan Bonaparte ou une certaine idée de la famille. Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais, un podcast original de France Inter.